Amen. Seigneur, apprends-moi. Eh bien, c'est pour ça qu'on est venu. D'ailleurs, on va lire le premier texte dans l'évangile de Matthieu. On va le lire peut-être dans une version qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, c'est la version Darby. Est-ce que quelqu'un a la version Darby parmi nous? Oui. Alors, si vous avez la version Darby, dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 29, il y a quelque chose de plus précis que dans nos versions communes. Matthieu chapitre 11, verset 29, c'est un texte sur le repos. On utilise très souvent ce texte pour l'évangélisation, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas complet. Matthieu 11, 29, regardez bien, c'est exactement ce que l'on vient de chanter. Apprends-moi, apprends-moi. On l'a chanté, je ne sais pas combien, 16 fois. Apprends-moi, apprends-moi. Matthieu 11, 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mais dans la version Darby, c'est apprenez de moi. Et c'est beaucoup plus juste. Recevez mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug, c'est vraiment l'image de l'union. Deux animaux qui sont attelés ensemble sont unis et travaillent. Et on ne peut pas travailler pour Dieu vraiment d'une manière paisible si on n'est pas attaché à lui. Alors j'aimerais qu'on lise également dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, Jésus voulait leur apprendre. C'est vraiment mon introduction, on se rend compte parfois combien les cantiques sont inspirés. Marc chapitre 8, verset 31. J'ai hésité avant de prendre ces deux versets parce que c'est pour l'introduction. Mais regardez, Marc chapitre 8, verset 31. Jésus a souvent dit ces choses. Et il y a un commencement. Dans la vie, il y a toujours un commencement. Marc 8, 31. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Vous y êtes? Il commença à leur apprendre. Il commença, vous voyez, il y a des choses qu'il faut vraiment apprendre. Il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Mais regardez au verset 32 du chapitre 9, c'est quelque chose que Jésus a répété constamment cette affaire. Regardez au verset 39. Au 32, pardon, du chapitre 9, mais, c'est pareil, hein, le verset 31, c'est pareil. Mais les disciples, qu'est-ce qui se passe? Ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ça, c'est dommage quand on n'ose pas demander au Seigneur qu'il nous aide. Donc, voyez, Jésus veut apprendre. Apprenez de moi. Beaucoup de gens entendent des prédications comme celle-ci. Beaucoup entendent, mais ils n'écoutent pas. Ils entendent, ils peuvent dire ce que M. Gaudy, c'est biblique. Ce que M. Gaudy, c'est ceci. Mais c'est une chose d'écouter et même de dire c'est biblique, ça n'est une autre d'entendre vraiment ce que Dieu a à nous dire. Qu'est-ce qu'on a appris? Paul, qui recevait énormément de choses par révélation, vous avez remarqué combien de fois Paul dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Il a reçu plus que les apôtres qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. D'ailleurs, un tiers du Nouveau Testament ont été écrits par l'apôtre Paul, alors qu'on pourrait dire, tiens, le Nouveau Testament, il aurait pu être écrit par les apôtres, par les douze qui ont vécu avec Jésus. Paul disait, j'ai appris à être rassasié. Qu'est-ce qu'il a appris, Paul? Tiens, est-ce que vous pourriez m'aider? J'ai appris à avoir faim. Vous voyez, il a vécu dans... Est-ce qu'on peut être dans des moments d'abondance, dans des moments de disette? Bien sûr. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Il l'a appris de quelqu'un. Il a eu des révélations, Dieu, dans des moments de communion, l'inspirait sur tel ou tel sujet, sur la doctrine en particulier, mais il y a plein de choses que Paul, il a appris. S'il l'a appris, il l'a appris de quelqu'un. C'est obligé. Quand il dit, mais vous avez appris à vous aimer les uns les autres, est-ce que c'est important d'apprendre à s'aimer les uns les autres? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez les uns les autres? Est-ce que vous aimez votre famille, vos enfants, les frères et sœurs de l'Église, etc. C'est important. Vous avez appris. On apprend. Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi. Dans Timothée, il est dit qu'ils apprennent à exercer la piété envers leur famille. Tiens, dans ma famille, est-ce que j'ai appris à exercer de la piété, etc. Apprends aux jeunes femmes à aimer leur mari. Tiens, est-ce que ça s'apprend, ça? Une jeune femme, est-ce qu'elle doit apprendre à aimer son mari? À aimer, est-ce que ça veut dire à faire des bisous? Est-ce que c'est ça? Il faut apprendre à faire des bisous? Non, non, mais... C'est pas ça. Apprendre à aider son mari, c'est une bénédiction, c'est qu'une femme apprenne à aider son mari, et vice-versa, bien sûr, qu'un homme apprenne à aider sa femme, etc. Il m'est bon d'être humilié, dira David, afin que j'apprenne. Donc, apprenez de moi. Vous savez, il y a des choses, on n'a pas pu les communiquer parce qu'on ne les avait pas apprises. Je prends un exemple, par exemple, Paul parle de la consolation. On va le lire quand même, C'est dans un Corinthiens, ou 2 Corinthiens, chapitre 1er. Regardez. C'est important ce qu'on va voir ce soir, parce qu'il y a des choses qu'on aurait dû apprendre et qu'on n'a pas apprises. Et on en est malheureux, parce que ça fait 5 ans qu'on est converti, ça fait 10 ans qu'on est converti, on n'est pas rentré dans le repos, alors que le Seigneur, lui, aurait souhaité qu'on rentre dans le repos. Regardez, on va bien lire une explication de ce que je viens de vous dire. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3, c'est sur la consolation. Mais comme il nous arrive de rencontrer des gens qui sont endeuillés, ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui est dans le deuil? Oui. 2 Corinthiens chapitre 1er, là c'est très bien expliqué, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » De toute consolation. Dieu, il peut tout consoler. Regardez bien, « Qui nous console ?» dans toutes nos afflictions, voilà, ça s'apprend, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc, un des problèmes qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens n'apprennent pas. Donc, ils sont dans le deuil. Moi, j'ai vu une femme un jour qui me disait, oui, moi je comprends parce que j'ai perdu mon mari, et vous savez, je comprends. Mais j'ai dit, mais non, vous ne savez pas consoler les gens. Vous ne les consolez pas. Cette femme souffrait. Elle avait perdu son mari dans des circonstances extrêmement pénibles et elle n'avait pas reçu la consolation. Elle disait aux gens, je vous comprends, mais c'est pas vrai. Elle, bien sûr, elle comprenait la souffrance, mais elle était incapable de les consoler. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas appris et reçu de Dieu la consolation. Nous devons recevoir. Parce que si Dieu nous donne certaines choses, c'est pour qu'on soit utile aux autres. Et c'est quand même une question que nous pouvons nous poser ce soir, si vous êtes chrétien, tiens donc, est-ce que je suis utile aux autres? Est-ce que j'ai appris, je parle de la consolation, mais est-ce que j'ai appris? On va lire le psaume 23. Notre petite exhortation ce soir, elle va tourner autour de ce psaume. Tiens donc, le psaume 23, c'est le psaume le plus connu. Hier après-midi, nous nous promenions avec mon épouse, et je me suis dit, tiens, je vais voir si elle connaît le psaume 23. Et j'ai dit à ma petite femme, j'ai dit, est-ce que tu peux me réciter le psaume 23? Et j'ai été très étonné, elle m'a récité le psaume 23 en entier. Elle a oublié un mot. Un mot, vous savez, au verset 6, il y a une phrase qui commence par le mot. Par quel mot elle commence? Oui. Quand il est dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront, mais c'est oui. Alors tu as eu, Isabelle, 19,5 sur 20. 19,5. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il aurait pu tout simplement dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais il met oui, pourquoi? Parce que quand il y a la grâce, c'est une évidence. Vous le savez, si Dieu est avec vous, vous pouvez dire oui. S'il n'y avait pas la grâce, on serait tous obligés de dire non. Non, la grâce ne m'accompagnera pas. Mais quand on connaît le Seigneur, sa grâce peut nous accompagner. Nous le lisons en entier. Je pourrais demander à mon épouse de le réciter, mais on va le lire. Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vous ferai remarquer que ce psaume est composé à la première personne du singulier. C'est-à-dire que c'est un psaume qu'on peut s'identifier. Est-ce que vous comprenez ? David aurait pu dire, le Seigneur est mon berger, etc. Je ne manque de rien. Mais il aurait pu se l'attribuer à lui. Vous ne manquerez de rien si Dieu est votre berger, etc. Non. C'est un psaume, il est conjugué de telle sorte que Dieu veut, c'est la preuve, que Dieu veut qu'on se l'approprie. Que nous aussi, nous puissions dire, tiens, mais j'ai appris. Je sais ce que c'est un berger. Pourquoi Dieu se compare-t-il à un berger? L'Éternel est mon berger. Beaucoup de chrétiens lisent, mais c'est pas vrai. Ils l'ont pas appris. Alors on le lit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindues ma tête et ma coupe déborde. Oui, ne jamais oublier le oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et vous pouvez dire amen. Il faut apprendre. Même Jésus, saint, parfait, fidèle, fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dieu lui-même, le fils de Dieu, a appris sur la terre l'obéissance par les épreuves, par tout ce qu'il a pu souffrir. Il faut apprendre. Et ce soir, si nous venons juste pour entendre une prédication et puis se dire, bon, on attendra la prochaine dimanche, etc., ça, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, nous devons apprendre. Tiens, peut-être que dans 3 semaines, je vais rencontrer quelqu'un qui a perdu sa fille, quelqu'un peut-être qui a quelqu'un de sa famille qui s'est suicidé. Il faut absolument que j'apprenne à consoler quelqu'un. Seigneur, enseigne-moi à consoler. Le psaume 23, mais c'est vrai, je le connais par cœur, je peux le réciter par cœur, je l'ai appris par cœur, mais est-ce que vraiment je peux m'identifier à ce psaume? Est-ce que le Seigneur est vraiment mon berger? Est-ce que ce soir vous pouvez sortir de ce temple en disant oui, le Seigneur, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte ce que Dieu veut que nous vivions? Apprends-moi, je te prie, à vivre. Apprends-moi à marcher selon ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, le Seigneur est mon berger? Vous savez, dans l'Ancien Testament, si vous avez lu les animaux qui étaient considérés comme purs, c'était des ruminants. Les ruminants, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. Vous savez comment elle travaille, une vache ou une brebis? Elle avale l'herbe, elle la met dans la panse, et puis après elle la régurgite, et elle la rumine. Et puis après, ça va dans l'estomac, vraiment. C'est un processus... Et les animaux purs dans l'Ancien Testament étaient des ruminants. Et nous, les chrétiens, nous devrions faire pareil avec la parole. C'est-à-dire que nous la recevons, comme c'est le cas ce soir. Tiens, mais est-ce que je vais ruminer ce psaume, méditer ce psaume, voir tous les textes? En plus, aujourd'hui, avec la concordance, c'est très facile de prendre le mot berger et de voir tous les textes qui parlent des bergers dans la Bible, de voir ce qu'ils doivent faire. Tiens, qu'est-ce que c'est? Quelle est la valeur de ce psaume? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne manquerai de rien. Est-ce que vous pouvez dire, c'est pas une question piège, et pas au contraire, est-ce que vous pouvez dire oui? Parce que le Seigneur Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, peut-être qu'il me manquera 30 euros pour arriver à la fin du mois. Je ne parle pas de ça. Je dis au niveau spirituel, il ne me manquera de rien. Je ne manquerai pas de paix parce qu'il est le prince de la paix. Je ne manquerai pas de consolation parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Il y a des chrétiens, ils ne se sont jamais relevés d'un deuil. Je comprends que certains deuils soient terribles, mais est-ce que Dieu, quand il dit qu'il est le Dieu de toute consolation, il peut tout consoler? Oui, vous le comprenez bien. Et nous avons besoin, comme dit Paul, d'amener nos pensées captives à l'obéissance. Et ça, les chrétiens se laissent promener par leurs pensées. Nos pensées, ce n'est pas nos pensées qui doivent nous contrôler, c'est à nous de contrôler nos pensées. C'est écrit plusieurs fois dans la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. Il doit me diriger. Il doit me diriger près des eaux paisibles. On a chanté comme une terre altérée, etc. L'eau du ciel, oui, je veux aller à la source d'eau vive. Qu'est-ce que vous répondriez à Jésus s'il vous disait, est-ce que je suis ton berger? Est-ce que tu peux ce soir me dire, que tu as cette assurance que tu ne manqueras de rien. Un berger, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on l'a lu, il me conduit. Il me fait reposer. Il me fait reposer. Une brebis, vous êtes... Qui c'est qui est de la campagne ici? Il n'y a personne de la campagne. Il n'y en a que... C'est une honte. Moi, je vais demander une mutation à la campagne. Une berger, moi j'ai appris, parce que dans ma famille, mes oncles étaient bergers et tout ça, ma grand-mère était bergère, tout ça. Et j'ai appris qu'une brebis ne se couche jamais si elle a peur ou si elle a faim. Jamais. Si vous voyez un troupeau avec quelques... Vous verrez des fois, il y a des brebis qui sont accouchées, d'autres non. C'est que si elles sont couchées, c'est qu'elles n'ont pas, pas peur, elles n'ont pas faim. Et quand un brebis... Bien sûr que si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais quand quelqu'un dit « il me fait reposer », ça veut dire qu'il est là. Je sais que le berger, il est là. Sa présence fait que je n'ai pas peur. Vous voyez, c'est une grâce de savoir que le Seigneur nous accompagne tous les jours. Vous pouvez le dire, mais je sais qu'il m'accompagne. Je ne le sens pas. Des fois, on me dit « mais vous sentez la présence de Dieu ?» Je dis « mais je n'ai pas besoin de le sentir. » Il a promis qu'il serait là. Est-ce qu'il s'est écrit « si vous sentez la présence de Dieu, il est là » Est-ce que c'est écrit ? Il y a déjà des fois, ils ne le font plus maintenant parce qu'ils ont compris. Monsieur Gou, ce matin, on a senti la présence. J'avais des frissons. J'avais, pendant le culte, vous n'aviez pas des frissons? J'ai dit non. Non, non. J'ai dit, mais je sais que le Seigneur, il est là. Parce que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Voyez, on n'a pas besoin de le sentir. Vous voyez, ça, c'est les sentiments. Le Seigneur, il est là. Que vous le vouliez ou non, de toute façon, il est toujours là. Mais un chrétien qui dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, c'est parce que le chrétien, il a confiance. Le Seigneur, il sait où il doit vous amener. Vous ne savez pas quel sera votre prochain travail. Vous ne savez pas si vous allez réussir dans ces études. Peut-être que vous allez échouer et que Dieu va vous orienter vers une autre école, etc. Est-ce que ça peut arriver, ça? Est-ce que ça peut arriver? Oh, j'ai raté mes études, je ne comprends pas, j'ai prié et Dieu m'a amené là. Maintenant, je suis infirmière. Et bon? Ah bon? Et puis après, 5 ans après, à Monsieur Gros, je suis à Ouagadougou, je suis infirmière à Ouagadougou, je m'occupe des enfants qui sont malades. Le Seigneur, il m'a conduit. Ah. Vous ne croyez pas que Dieu, il sait conduire ses enfants? Nous, on est là, on est tout le temps inquiets, affolés, parce que ça ne s'est pas passé comme on voulait. Il me conduit. Si le Seigneur est votre berger, il va vous conduire, il va vous amener au repos. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Vous êtes damnés, mes frères et sœurs. Si le Seigneur est votre berger, vous ne craindrez rien. Il vous conduira. Il sait exactement où il doit vous amener. Vous savez, c'est une grande bénédiction. Ça. Un berger, il sait. Une brebis, elle ne sait pas. Une brebis, elle ne sait pas. Parce que, vous savez, les brebis, elles vont dans un pâturage. Et puis, quand le pâturage est consommé, bien, le berger, il les amène dans un autre verger. Prêt. Bon, c'est vrai que des fois, d'un pâturage à l'autre, il y a des buissons, il y a des chemins difficiles. Moi, je me souviens, une fois, on était sur un chemin, il y avait des brebis, on suivait des brebis, et je savais qu'il ne fallait pas le faire. Mais j'étais jeune, vous voyez, et j'ai mis un grand coup de klaxon, et les brebis, il y en a une qui a sauté dans les taillis, dans les, vous savez, les piracantas, vous savez. J'ai eu honte parce qu'elle s'est coincée. Et il ne faut pas grand-chose pour faire peur à... Vous faire peur à une brebis. Vous voyez, bon, des fois, pardon. Mais je le savais en plus. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vite fait, des fois, pour aller d'un pâturage à l'autre, des fois, il ne faut pas grand-chose pour qu'on se retrouve coincé. Mais le berger, il est là pour faire du bien. Vous savez, il y en a des pièges. Il y en a des moments difficiles. Vous savez, près des eaux paisibles. Pourquoi les eaux paisibles? Parce qu'une brebis, elle n'ira jamais boire où il y a des eaux tumultueuses. Parce qu'une brebis qui boit à côté des eaux tumultueuses, elle peut se faire entraîner, et dès qu'une brebis, si elle est pleine de laine et couverte d'eau, elle peut se faire noyer en quelques minutes. Et le Seigneur, il sait d'où nous amener. Il sait les endroits où on a besoin d'être. Il sait l'église où on va être nourri. Vous croyez que le Seigneur, il sait où on a besoin d'être? Il le sait, le Seigneur. Faites-lui confiance. Dis, Seigneur, conduis-moi près des eaux paisibles. J'ai besoin d'être rassénéré. J'ai besoin d'être rafraîchi dans ce temps de sécheresse, dans ce temps de fausse doctrine, dans ces temps de difficultés. Seigneur, donne-moi des verts pâturages. Donne-moi des eaux paisibles. Le berger, il le sait. À nous d'écouter. À nous d'écouter, parce que quand même Dieu est un Dieu de paix, et il nous conduit dans la paix, vous ne croyez pas? Hein, on le sent quand on est à notre place, on le sent quand on est restauré. Le Seigneur, il a tout préparé. Il est même dit qu'il a préparé toutes les œuvres, toutes les œuvres. Est-ce que c'est écrit qu'il a préparé les œuvres? Vous vous rendez compte? Dieu a tout préparé. tout préparé. Nous, on est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Eh bien, le Seigneur a tout préparé. Tout. Je sais, vous le croyez, ça, mes frères et sœurs? C'est ça, le bon berger. Il a tout préparé. Il sait ce qu'il vous faut. Il sait ce qu'il vous faut. Il sait le mari qu'il vous faut. Vous le savez, vous, le mari qu'il vous faut? Ou la femme qu'il vous faut? Vous le savez? Michael, vous le savez, la femme qu'il vous faut? Mais lui, il le sait. Non, mais c'est... Est-ce que vous le croyez, ça? Dieu, il le sait. Il sait. Tiens, je vois Laurence, là. Vous rappelez, tout à l'heure, j'ai parlé de vous. Vous n'y étiez pas. Ah, vous voyez, vous rappelez quand vous me disiez... Non, mais je ne vous demande rien. Je vous demande rien. Vous rappelez quand vous disiez, mais on prie, il faut qu'on prie, et Dieu vous a pardonné le mari qu'il fallait? Oui? Ouais. Il le sait. Non, mais sérieusement, nous, on est là. Mais Dieu, il sait, il a tout. Ne vous inquiétez pas, Laurent, c'est fini. Il a tout préparé. Il le sait, mes frères et sœurs. Recevez mes instructions. Apprenez de moi. Vous voulez le glorifier, le Seigneur? Vous êtes là pour le glorifier, oui ou non? On est là, on a chanté, c'est bien. On a prié, c'est très bien. On va partager la communion fraternelle, c'est très bien. On va rentrer à la maison avec cette grâce de savoir que Dieu nous protège, c'est bien. Mais vous vous rendez compte, la faveur que c'est pour lui, quand il voit qu'on lui fait entièrement confiance. Il me conduira, il sait quel sera ma prochaine étape, le prochain projet dans lequel je dois avancer. Mes frères et sœurs, c'est archi important. Nous, on est là, on s'inquiète. J'ai lu dans un bouquin dernièrement que l'inquiétude ne change rien. Mais si, ça change. Parce que quand on s'inquiète, ça change les choses. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui dit, oui, de toute façon, si vous vous inquiétez ou pas, ça ne change rien. Je ne suis pas d'accord. Parce que quand on s'inquiète, on change. Nous, on change. Et on peut s'éloigner de Dieu quand on s'inquiète. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça change. L'inquiétude nous pousse à faire les choses par nous-mêmes. L'inquiétude nous pousse à nous confier à nous-mêmes, à nous précipiter, à faire, oui, mais parce que Dieu n'a pas encore pourvu, eh bien, moi, je peux prendre les choses en main, etc. Dans un culte, j'avais lu il y a longtemps de ça, et ça m'est revenu. Le pasteur était à un culte un dimanche et il a demandé « Est-ce que quelqu'un connaît le psaume 23 par cœur ?» Alors il y a un acteur qui s'est levé, un chrétien, c'était un acteur. Il s'est levé, il a récité le psaume 23 avec une grande éloquence, il a bien exprimé. Vous savez, il y a des façons de parler, de ponctuer un texte, etc. Et quand il a récité le psaume 23, toute l'assemblée l'a applaudi. Le pasteur dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît le psaume 23? Puis il y a un vieillard qui s'est levé avec sa canne et il a récité le psaume 23. Et une fois qu'il a récité le psaume 23, tout le monde s'est tu. Un silence. Et l'acteur, il s'est relevé et il a dit, moi je connais le psaume du bon berger. Mais le vieillard, lui, il connaît le berger. Et vous savez, c'est bien de connaître les psaumes, mais c'est quand même mieux de connaître le berger. Et de pouvoir dire, mais je veux le connaître. Je veux apprendre à le connaître. Je veux apprendre. Si c'est vrai que tu es le bon berger, je veux absolument faire une expérience avec toi. Je veux absolument vivre cette affaire de pouvoir dire, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous vous rendez compte comment un chrétien glorifie Dieu lorsqu'il a dans son cœur cette conviction qu'il ne manquera de rien? Vous vous rendez compte ce que Dieu veut? Et ce n'est pas écrit une fois. Le Seigneur, il a dit qu'il était venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Bien sûr qu'il y a des épreuves. La preuve, c'est que on le voit, oui, quand il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, la vallée de l'ombre de la mort? Ça veut dire toutes les épreuves qu'on doit traverser. Ce n'est pas incompatible avec cette affaire qu'on ne manquera de rien. Mais même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans les moments où je vais tomber, les moments où je vais me retrouver dans un trou, parce que les brebis, elles peuvent pas se relever. Lorsqu'une brebis se retrouve sur le dos, elle ne peut pas se relever. Elle a besoin du berger. Nous, on tombe physiquement, je parle. On se relève. Mais il y a des brebis, lorsqu'elles tombent sur le dos, elles ne peuvent pas se relever. Et béni soit Dieu quand le bon berger, il est là. Est-ce que le Seigneur vous a déjà relevé, au fait, spirituellement? Est-ce que Dieu vous a relevé? Est-ce que vous êtes déjà tombé? Tombé dans des trous spirituels, tombé dans des travers, tombé dans le chemin qui montait trop ou qui descendait trop. On est souvent tombé. Mais ce qui caractérise un mouton, c'est qu'il est rassuré. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Je ne veux pas avoir peur, je veux pouvoir me reposer. Tout à l'heure, il y a des gens qui ne dorment pas. Est-ce que vous le savez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir? Ils sont inquiets, tout ça. Alors, il faut qu'ils fassent une expérience. Seigneur, donne-moi du repos. Je sais que tu veilles sur moi. Si on est là ce soir, c'est que Dieu nous a gardés jusqu'à depuis votre naissance. Vous croyez que c'est parce que je me souviens de ce gars qui était venu ici et qui disait « Moi, je crains rien en bagnole parce que maintenant j'ai acheté une grosse BMW, je risque rien. » J'ai dit « Mais c'est pas la BMW qui vous garde, c'est Dieu qui vous garde sur la route. » Bon, bien sûr, c'est clair que si on a une voiture costaud, c'est bien. Mais c'est pas parce qu'on a une voiture super costaud qu'on va être gardé plus que si on a une vieille de chevaux. Vous le croyez, ça, que Dieu garde? Vous voyez, c'est bien. Si quelqu'un a pu s'acheter une grosse voiture, ben c'est très bien. Mais moi, je crois plutôt que c'est Dieu qui nous garde. Vous ne croyez pas que c'est Dieu qui nous garde? C'est important, ça. Être rassuré, près des eaux paisibles, dans les verts pâturages. Et le verset clé, peut-être, pour moi, hein, le verset clé, c'est le verset 3. Il restaure mon âme. Beaucoup de chrétiens ne pourront jamais s'approprier ce psaume parce qu'ils ne prennent pas le temps d'être à côté du Seigneur pour que leur âme soit restaurée. Vous savez ce que c'est un restaurant, hein? Vous aimez aller au restaurant, hein? Peut-être que demain on va vous inviter à manger. Peut-être que vous allez bien manger. Est-ce que vous aimez être bien restauré? Est-ce que vous aimez bien manger? Allez, dites-moi, ne faites pas les très 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 spirituels. Est-ce que vous aimez les restaurants? Bien sûr, on aime. Des fois on a faim. Qu'est-ce qu'on apprécie? Un bon repas, etc. Et il restaure mon âme, ça veut dire, mais Dieu, si le Seigneur est mon berger, il continuera à m'aider, il continuera à me désaltérer, il continuera à me nourrir. Lorsque je serai peut-être découragé, parce que quand même cette épreuve m'a découragé, eh bien il va restaurer mon âme. Mais il faut que je sois à côté de lui. L'image de l'onction dans ce psaume, lorsqu'il dit « tu oins d'huile ma tête », une brebis ne peut être ointe d'huile. L'huile, on faisait de l'huile avec des olives, on faisait de l'huile, avec, etc. Et quand une brebis avait de la fièvre, le berger, c'est pour ça qu'il est dit que les brebis passeront sous la main de celui qui les compte. Lorsque les brebis rentraient le soir, le berger touchait la tête, et si elle avait de la fièvre, hop, il la mettait de côté, ou il regardait vite s'il n'y avait pas des épines qui pouvaient provoquer de la fièvre. Mais il est impossible, soyons sérieux, que Dieu nous oigne de son huile si on n'est pas à côté de lui. Ce soir, on a besoin d'apprendre, Seigneur, mais apprends-moi à rester à côté de toi. C'est le béaba même. Quand on dit apprends-moi, c'est clair. Une brebis, elle est au bénéfice des soins, des mains et de l'huile du berger si elle est à portée de main. C'est absolument évident. Quand il me dit par un moyen, il me conduit dans les sentiers de la justice, ça veut dire quoi? Eh bien que la relation que je dois avoir avec le Seigneur est une relation juste. Ce que Dieu demande, je le fais. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire au fait? Vous voyez, on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça? Conduit dans les sentiers de la justice. Eh bien, que j'ai besoin d'avoir une relation juste avec Dieu. Ce que Dieu dit, c'est juste. Si ce soir j'entends, je réentends qu'il va restaurer mon âme, qu'est-ce que je... Mais pour restaurer, il faut que je mange. Si le berger conduit une brebis près des eaux paisibles, si le berger conduit une brebis dans les verts pâturages, il ne peut pas la forcer à boire, il ne peut pas la forcer à manger. Est-ce que vous comprenez? On peut amener un homme dans une église, on peut amener un nouveau dans une église, ce n'est pas pour cela qu'il va être au bénéfice de cette grâce, de cette miséricorde, de ces eaux paisibles, de ce rafraîchissement, de cette restauration. Oui, on peut amener des gens à l'église, mais après c'est à chacun d'eux de se nourrir et de dire je vais ruminer ces choses. Le psaume 23, le verset 1er, je vais en faire une affaire sérieuse, je vais ruminer la parole de Dieu jusqu'à ce que j'ai cette assurance que je ne manquerai de rien, même quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Ça, c'est indéniable, je sais que le Seigneur y sera avec moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes frères, c'est important de comprendre ces choses. Nous, on ne sait même pas des fois où on est. Moi, j'aime ce verset qui m'a beaucoup touché un jour, c'est « Ne le cherchez pas » dans le psaume 142, verset 4. « Toi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. » Moi, c'est un verset qui m'a fait beaucoup de bien. Vous allez me dire, mais il ne faut pas grand-chose. Mais peut-être. Mais franchement, mes frères et sœurs, toi, tu connais mon sentier. Des fois, on ne sait pas trop où on est. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne sais pas où j'en suis. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Laissez le Seigneur vous conduire. Toi, tu connais mon sentier. Vous savez, nous, on était souvent faibles. J'aime ce texte quand il est dit « Le juste tombe sept fois. » Et qu'est-ce qu'il est dit après? Et sept fois, l'Éternel le relève. Que son nom soit béni. Pour toutes les fois où le Seigneur est là pour nous relever. C'est pour ça qu'on a besoin d'une relation juste. De savoir ce qui est juste. Quand Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Nous n'avons pas besoin que de justification. Nous avons besoin de savoir ce qui est juste. Qu'est-ce que c'est qui est juste? Ce qui est juste, c'est que nous, on est tout le temps en train de vouloir mériter les choses. Ça, c'est une traverse. Ça, c'est la religion diabolique, ça. Ça vient du diable. Nous, on veut tout le temps mériter quelque chose. Il n'y a rien à mériter, il n'y a rien à payer. Tout est grâce. Le berger, il nous conduit par grâce. Tout est grâce. Le salut, c'est une grâce. La victoire, c'est une grâce qui découle encore du calvaire. Nous sommes ses enfants. Vous vous rendez compte? De pouvoir dire « L'Éternel est mon berger », bon, c'est déjà bien. Mais de pouvoir dire « Le Seigneur est mon Père », vous ne trouvez pas que c'est encore mieux? Éternel, mon berger, bon, écoutez, si ça ne vous convient pas, ce n'est pas grave. Mais j'espère que vous avez la grâce de pouvoir dire, Dieu est devenu mon Père. Il pourvoira. Si je suis tout le temps en train de dire, oui, il faut que je mérite, ah, cette semaine, oh, je suis content, je vais pouvoir prendre la Sainte-Seine avec beaucoup d'assurance. J'ai passé une bonne semaine, je mérite de prendre la Sainte-Seine, oh, avec cœur, parce que, mes frères et sœurs, écoutez-moi, ça ne marche pas comme ça. Tout est grâce. Tout est grâce. Tant mieux si on a passé une bonne semaine. Tant mieux si on a passé une bonne année dans l'obéissance. C'est clair que c'est quand même la volonté de Dieu. Mais nous n'avons pas besoin de notre propre justice. Nous avons besoin de la sienne. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Seigneur, délivre-moi. Quand je suis énervé, quand je suis irrité, quand je suis découragé, toutes ces choses qui détruisent ma foi. Seigneur, je veux rester à côté de toi. L'Éternel est mon berger. J'ai des décisions à prendre. Tiens, dans quelques semaines, je vais avoir des décisions importantes à prendre. Est-ce que ça peut arriver que dans quelques semaines, vous ayez des décisions importantes à prendre? Vous ne croyez pas que la meilleure façon, c'est d'être à côté de lui? Seigneur, je serai à côté de toi. Je veux te donner du temps. Je veux te donner du temps. Je veux prendre du temps pour que tu puisses travailler mon cœur, pour que tu puisses travailler mes pensées. C'est vrai quand même. C'est chouette, ça, de pouvoir dire « Je ne manquerai de rien ». Vous ne croyez pas que c'est bien? Il y a quelqu'un qui le croit dans ce lieu, qui manquera de rien? Il y a quelqu'un qui le croit? Mais heureux êtes-vous. Cette vallée, bien sûr, cette vallée, elle est là. Elle nous ennuie, cette vallée. Non? Qu'est-ce que vous préférez? Vous, les verts pâturages? Les eaux paisibles? Que Dieu, les restaurants où vous êtes bien nourris? Ou la vallée de l'ombre de la mort. Elle nous ennuie, cette vallée. Elle nous ennuie. Parce que la vallée, ça nous parle de peur, de tristesse. Mais il est là. Gloire à Dieu. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas senti, mais il était là. On se rend compte, quand est-ce qu'on le sait? Eh bien, on le sait des fois 3 mois après. On dit, eh bien, heureusement qu'il était là. J'aurais pu chuter, il m'a gardé. C'est pas vrai, ça? J'aurais pu chuter ce jour-là. Il m'a gardé. J'aurais pu avoir un accident. Le Seigneur m'a protégé, etc., etc. Vous savez, il y a des moments bénis. Ils existent, les verts pâturages. Ils existent, ces endroits où il y a des eaux paisibles. Ils existent, ces endroits où on est restauré, etc. Mais ils existent aussi les mauvais jours. La Bible parle des mauvais jours. La Bible parle des combats. La Bible parle de ces moments où l'ennemi nous attaque. Oui ou non? Moi, je pense à David, souvent, quand il était vieux. Il était vieux, il avait 60 ans. Il était vieux?
pas trop quand même.
Eh bien, quand il a été attaqué par les frères de Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez quand il y avait les quatre frères de Goliath qui ont essayé de lui faire la peau, ils ont attendu qu'il soit fatigué. Eh bien, il y avait ses amis. Il avait quatre amis avec lui qui se sont occupés des quatre géants. C'est beau d'avoir des frères et des sœurs avec qui on peut marcher. C'est beau de dire à quelqu'un, prie pour moi, prie pour moi. Pourquoi? Ça ne te regarde pas, prie pour moi. Parce que des fois, non mais je sais que des fois ça peut arriver, mais est-ce qu'on ne peut pas dire simplement à quelqu'un, soutiens-moi. À cinq ou six frères, soutenez-moi, j'ai besoin. C'est beau l'Église, c'est beau les frères et sœurs, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Cette grâce, oui, ce psaume, il est tout simple, on le connaît, vous le connaissez par cœur. Hein? Sa houlette et son bâton me rassurent. Sa houlette. Le bâton, ce n'est pas pour nous. Le bâton, c'est pour les ours. Quoique des fois, le bâton, il y a un pasteur qui a été une fois en Suisse, il me l'a raconté, il a vu un berger, vous ne savez pas ce qu'il a fait, il y avait une brebis qui courait sur la colline. Mais quand même, Dieu permet des choses bizarres. Et le berger, tout d'un coup, il prend son bâton et il le lance, il le fait tournoyer et clac, il a cassé les pattes au mouton. Le pasteur, il a dit, mais ce n'est pas possible. Et il a été voir. Et la brebis était à 2 ou 3 mètres d'un précipice. Et il lui a coupé les pattes pour pas qu'elle se tue. Et le berger lui a dit, mais pendant quelques jours, elle va être sur mes épaules. Je vais la porter. Il avait cassé une patte. Vous voyez, il y a des choses que, quand on n'a pas l'explication, il y a des fois où le Seigneur, il nous a peut-être... Comment dirais-je? Il nous a peut-être luxé un membre, mais est-ce que ça vaut pas la peine des fois que le Seigneur... Vous savez, nous on est là, on n'y voit pas clair, mais le Seigneur il voit loin, il voit le chemin, il est notre bon berger. Il sait tout, on devrait être rassuré, ta houlette. Vous savez ce que c'est une houlette, hein? Vous savez, c'est comme un bâton, avec au bout il y a un crochet, de l'autre côté il y a une cuillère. La cuillère, c'est pour donner à manger, des médicaments si nécessaire. Et la houlette, c'est pour attraper avec la patte, pour ramener la brebis. Donc et le bâton, c'est pour douce. Parce que les bergers, ils doivent défendre le troupeau. Parce que nous, on ne fait pas attention. Mais quoi qu'aujourd'hui, dans les Pyrénées, on voit souvent des troupeaux qui sont anéantis par des loups. Mais à l'époque, vous avez vu David quand il disait, mais moi, j'ai appris quand le lion venait, un lion. Quelqu'un a dit, ouais, mais en Israël, les lions, ils sont petits. D'accord. Quand même, il défendait le troupeau. Mais aussi, vous voyez, quelle expérience il a fait quand le grand lion s'est présenté, eh bien, il a su l'affronter. Quelle grâce, quelle grâce de savoir que le berger nous protège. Mes frères et sœurs, combien j'aimerais qu'on rentre chez nous dans quelques minutes, le cœur rempli de reconnaissance. Dire, Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Moi, je ne sais pas trop. Moi, je ne sais même pas ce qui m'attend demain. Je ne sais pas avec qui je me marierai. Je ne sais pas où j'habiterai l'an prochain. Vous croyez que Dieu, il sait? Si vous saviez combien Dieu il sait tout. Vous savez, quand il est parlé de cette coupe qui déborde, vous savez, Dieu n'est pas que notre berger, en fin de compte. Je termine avec cette pensée parce qu'elle est forte sur mon cœur. Nous, on est là, avec, voyez, on est chrétien, donc on a la vie éternelle. Bon, c'est bien. Mais je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, c'est beaucoup plus merveilleux. Quand Jésus dit, il ne parle pas que de vie éternelle. Quand il dit, tiens, je vais vous préparer une place, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous connaissez ces textes? Il y a plein de textes comme ça, oui. Là, on n'est pas que dans la vie éternelle. On est dans la bénédiction éternelle. Oui, on pourrait dire, tiens, bien sûr que c'est flou, tout ce qu'on va faire, etc. Mais quand même, il y a quelques indications qui nous montrent qu'il n'y a pas que la vie éternelle. Il y a le fait que Dieu a tout préparé. Je vais vous préparer une place. Voilà, on aura une maison dans le ciel. Vous savez pas comment elle sera. Vous savez comment elle sera, votre maison dans le ciel? Vous savez si vous habiterez dans cette nouvelle Jérusalem, une ville juste, une petite ville de 2200 km2. Vous voyez, 2200 km de haut. Oui, ça fait quand même de l'espace. Il nous l'a dit. Moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Moi, ça me touche. De savoir que Dieu à tout préparer. Le bon berger, il ne nous donne pas que la vie éternelle. Il nous rassure, il pourvoit, il nous conduit. Si on a besoin de traverser une vallée un petit peu plus ténébreuse, il sera là. Oui, oui, c'est sûr. Oui, ça veut dire c'est vrai. Oui, ça ne peut pas être autrement. Si vous êtes avec le Seigneur, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours. Dans la vallée, dans ces moments où je vais me prendre une patte dans un trou, où je vais peut-être me luxer la cheville et je ne vais pas bien marcher pendant quelques jours, mais peut-être que ça va me rapprocher du berger un peu plus. Peut-être que je vais rester quelques jours sur ses épaules. Ça va peut-être me faire du bien de sentir sa voix un peu plus près de mon oreille. Vous savez, le Seigneur, il nous conduit, mes frères et sœurs. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Apprends-moi, Seigneur, oui. Apprends-moi, je te prie. Apprenez de moi. Recevez mes instructions. Et vous trouverez le repos parce que mon joug est doux et mon fardeau léger. Que ce soit ainsi que vous puissiez partir avec cette grande confiance dans votre cœur. Seigneur, je resterai à côté de toi. Je ne m'éloignerai pas de toi. Ça, c'est la chose non négociable. Et votre présence me prouve ce soir que c'est quand même ce que vous voulez. Si vous êtes là ce soir, c'est quand même la preuve que vous voulez rester près du bon berger. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, on va lui demander qu'il continue à nous secourir, qu'il continue à nous garder. Vous êtes d'accord, hein? On lui demande de l'aide, il le fera, il le fera. Il est engagé par sa parole, il est lié, il a fait une alliance avec nous. Il a fait une alliance. Notre Père, notre Dieu, tu t'es comparé à ce bon berger. Tu t'es engagé à pourvoir, non seulement ici-bas, mais tu as promis pour l'éternité de nous protéger. Une maison dans les cieux. Tout ce que nous voyons dans ta parole, Seigneur, ne peut que nous rassurer. Oui, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Nous le savons, Seigneur, que tu peux nous protéger. Même dans ces vallées pénibles que nous traversons parfois, même dans ces trous où nous glissons, nous te remercions pour ta main qui nous a soutenus. Nous te remercions pour les soins que tu nous as donnés. Nous te remercions pour toutes les fois avec nos pattes cassées où nous nous sommes retrouvés sur tes épaules pour entendre ta voix un peu plus près. Seigneur, nous voulons terminer cette soirée en nous appropriant ce psaume. Vraiment, Seigneur. Nous ne voulons pas que ce soit le psaume de David. Nous voulons que ce soit le nôtre, à chacun. Oui, Seigneur Jésus, tu as donné ta vie au calvaire. Tu as porté nos péchés. Non seulement tu es le Rédempteur, mais Seigneur, tu es notre bon berger. Que ton nom soit béni, Seigneur. Garde-nous dans ces temps de ténèbres, dans ces temps d'oppression, dans ces temps où la colère arrive, nous choisissons de demeurer à l'abri du Très-Haut afin de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.